Bonjour, bonsoir et bienvenue dans L'œuvre au noir, le podcast de métallurgie qui décrypte pour vous les références artistiques et culturelles du métal. Je suis Scalmax et comme d'habitude on va passer une petite heure ensemble autour d'un sujet qui lie le métal et la culture, ou peut-être exclusivement le métal pour cet épisode. Parce que si vous avez lu le titre, vous savez qu'aujourd'hui on va pas spécialement s'intéresser à une œuvre, un artiste ou une légende en particulier, on va s'intéresser au métal qui parle du métal. Alors c'est un titre peut-être un peu, un thème un peu nébuleux à première vue. En fait, on va parler de groupes comme, de trois groupes pour commencer. On va parler de essentiellement de Metallica, de Venom et de Darkthrone. Donc voilà, trois groupes que j'aime beaucoup, donc je suis content. Mais cette volonté de faire ce sujet, ça vient d'un constat plus général sur le métal et sur sa volonté, sa tendance à s'auto-référencer. Sa tendance à, quand on est un groupe de métal, à un moment de sa carrière, sortir un titre avec le terme métal dedans. Et ce, pour différentes raisons. Je pense à Manowar, évidemment, dont on va devoir faire un petit passage sur eux. Je pense à Judas Priest aussi, qui a un titre qui s'appelle Heavy Metal, qui avait... voilà, à partir de ces quelques constats-là que j'ai fait dans mes écoutes perso, je me suis posé la question et je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal qui se prêtaient au jeu. Et ça m'intriguait de savoir pourquoi. Ça m'intriguait de savoir pourquoi est-ce qu'un groupe de métal va écrire ou jouer un morceau qui parle de son propre genre. C'est quand même assez étonnant. Et donc on va s'intéresser à ce sujet-là aujourd'hui. Pour démarrer, on peut se poser une question toute bête, à savoir, est-ce que le métal est le seul genre à faire ceci? Est-ce que le métal est le seul genre à parler de lui-même? Et en réalité, on a d'autres exemples. Trois exemples, on va commencer peut-être par le rap. Alors, en faisant mes recherches, je suis tombé sur une liste qui était alimentée en fait par des comptes Reddit, qui listaient justement, qui se posaient en fait la même question, est-ce qu'il y a des groupes de rap, plutôt des artistes rap, qui font référence à leur mouvement musical. Ça paraît assez évident, en fait, quand on y réfléchit deux secondes, que dans le rap, c'est quelque chose de central. On le voit avec, tout un tas d'artistes que je ne vais pas citer, je vais citer deux exemples pour voir un petit peu le panel qu'on a dans ces morceaux. Le premier, c'est Old School de Tupac, donc rappeur américain, évidemment, très connu. Et dans ce morceau, Old School, il fait un hommage très clair à la scène rap, à la scène hip-hop des années 80-90, et essentiellement aux artistes qu'il écoutait quand il était plus jeune. Donc c'est vraiment un morceau hommage, un morceau dans lequel il va citer explicitement les artistes, les rappeurs qu'il écoutait quand il était plus jeune, et qui l'ont formé. Ça, c'est un truc intéressant, on en reparlera pour un des groupes qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pas commun dans le métal d'aller citer explicitement des groupes dans ses paroles. Mais il y en a un qui le fait, et on verra ça plus tard. Deuxième exemple pour le rap, là pour le coup c'est un morceau que je connaissais d'avant et qui me plaît bien, c'est pour ça que je le cite. C'est un morceau de The Roots, et le morceau c'est What They Do. Donc là c'est un morceau, outre ses qualités musicales, parce que je trouve qu'il est... C'est ce que j'aime bien, notamment chez The Roots, c'est qu'il y a un côté, mine de rien, assez mélodieux dans les instrus, particulièrement sur celui-là. Et c'est un titre qui parle de la corruption du rap par l'argent, voilà, du fait que le rap a peut-être perdu ses principes à partir du moment où il s'est starifié. C'est un discours qu'on peut entendre, bien sûr, dans le rap, mais qu'on peut entendre dans d'autres genres musicaux, c'est évident. Donc on voit déjà avec ces deux exemples du rap que on peut être à la fois critique et à la fois émettre des louanges sur le genre en question, et c'est ce qu'on va retrouver dans nos autres exemples et aussi dans le métal. Un exemple avec le punk, que dit le punk sur le punk? Le punk dit deux choses. Il dit punk is dead, avec Crass, notamment dès 1978, donc on est un an après l'explosion, après l'explosion du punk en Grande-Bretagne, et dès l'année suivante, Crass nous dit que le punk est mort, qu'il est devenu un produit comme les autres, et qu'il a perdu son caractère offensif, son caractère revendicatif. Et en fait, il se trouve que seulement 3 ans plus tard, en 1981, The Exploited nous dit exactement l'inverse. The Exploited nous dit Punk's not dead. Et on va pas se le cacher, avec des paroles bien moins profondes, bien moins écrites aussi, on est plutôt sur dans ce morceau-là. Contrairement à Crass, qui était vraiment sur des principes moraux, sur quelle est l'idéologie punk finalement derrière tout ça, The Exploited va uniquement, enfin, va essentiellement affirmer une identité punk un peu bas du front, qui a à voir avec le look aussi, voilà, une image un peu adolescente de ce que c'est que le punk. Donc encore une fois, des points de vue un peu contrastés, mais il y a d'autres possibilités, d'autres morceaux de punk qui utilisent punk dans leur titre. Et un autre, peut-être un troisième genre pour terminer, un autre genre qui aime bien s'autoréférencer, c'est le rock ou même le rock'n'roll par extension. Très tôt d'ailleurs, puisque Chuck Berry chante Rock'n'Roll Music, une déclaration d'amour au genre, qui est, voilà, on va en parler pour le métal aussi, mais une sorte d'affirmation et une sorte de déclaration d'amour aussi à ce style musical, en opposition, notamment, il y a simplement un vers là-dessus, en opposition au jazz, qui est aussi forcément important, un genre qui est important, qui est écouté à l'époque. Chuck Berry, c'est les années 50. Et un morceau qui a été en plus repris, Rock'n'Roll Music, qui a été repris par les Beach Boys et les Beatles aussi. Donc, encore une fois, une façon d'affirmer qui on est et ce qu'on aime dans une époque où les adolescents commencent à la catégorie ou l'existence du mot adolescent commence à émerger. Donc, ça c'est intéressant pour le coup. De la part de Chuck Berry et des gens qui l'ont repris ensuite. Un autre exemple très connu, évidemment, Joan Jett, I Love Rock and Roll. Et là, on est évidemment sur à la fois un hommage au style et puis sinon toute une évocation de tout le décorum, de voilà ce que ça sous-entend, le rock and roll, être près du jukebox, avoir ce côté, même musicalement, hein, cette attitude un peu rebelle, un peu frondeuse aussi. Et un dernier exemple, pareil que j'aime beaucoup, qui est très connu, qui est I Wanna Rock de Twisted Sister, qui est ici dans un côté opposition, défiance adolescente. L'idée, c'est je jouerai du rock, même si on me dit de pas le faire, je vais jouer fort, etc. C'est un peu l'idée qu'on trouve derrière ce morceau, qui est simplissime mais hyper efficace, donc forcément. On adore I Wanna Rock de Twisted Sister. Et donc voilà, ça c'est des exemples qu'on peut égrener comme ça. On peut, je pense, trouver encore d'autres exemples dans d'autres styles. Mais on va s'arrêter là en tout cas pour la comparaison entre le métal et puis ces autres styles. Donc on voit qu'il y a une généalogie en tout cas dans le là-dedans de dès qu'un mouvement. C'est un peu ce qu'on peut commencer à aborder, c'est qu'un mouvement naissant va peut-être avoir tendance à s'affirmer, à s'exalter, à créer sa propre culture, créer ses propres codes. Pour le rap, quelque chose que je rajoute aussi, évidemment, qui est un peu passé à la trappe quand j'en ai parlé, c'est bien entendu tout ce qui a à voir avec l'ego trip. Le rap va. Dans les artistes rap vont avoir tendance à comparer ce qu'ils font, à comparer leur flow, comparer leurs paroles, et bien sûr. Au-delà de ça, la street crédibilité des artistes. Et donc, on va avoir ce côté aussi défiance au sein de la scène, ce côté un peu guéguerre, clash, etc. Mais on va revenir du coup au métal et on va se poser la question de pourquoi est-ce que le métal fait cela? Et personnellement, je dégage trois axes majeurs, trois raisons pour lesquelles le métal va faire cela et s'auto-référencer. La première, on l'a dit. C'est ce côté affirmation de soi et cette fierté revendiquée d'être un métalleux. À mon avis, le côté affirmation, fierté, etc., il est plus prégnant à la naissance d'un mouvement parce que, comme on l'a dit, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de prouver qui on est, de se faire une place dans la musique, tout simplement. Et bien entendu, aux origines du métal, les métalleux sont jeunes en termes d'âge, ils sont adolescents, disons que le boom qu'il y a dans les années 80 en termes de popularité et de créativité du genre, il est mené Que ce soit côté auditeur ou côté artiste, il est mené essentiellement par des jeunes. Ils ont, voilà, entre 15 et 30 ans. C'est cette grosse catégorie d'âge, je pense, qui fait la cohorte des métalleux à l'époque. Étant dans une musique qui est encore marginalisée, qui en plus ne plaît pas aux parents, il y a cette nécessité de s'affirmer, de montrer sa fierté, de montrer haut ses couleurs. Je pense particulièrement au métal américain, puisqu'on va parler de Metallica. Il est confronté en plus à une société qui est très religieuse, qui est très conservatrice. On rappelle quand même que la devise américaine, ça reste In God We Trust, donc nous remettons notre confiance en Dieu, c'est quand même pas rien. Et quand on veut jouer du heavy metal, forcément il y a quelque chose qui coince. Au-delà de ça, on parle de Metallica, ça veut dire qu'on est plutôt dans les années 80, parce qu'on va s'intéresser à un morceau qui est sur leur premier album. Qui dit années 80 dit un contexte particulier aussi pour les États-Unis. En fait, on est dans une vague conservatrice, une vague de panique morale qui s'appelle la Satanic Panic, qui est causée par différents facteurs, notamment des facteurs sociétaux. On est à une époque où les femmes américaines, pour diverses raisons, que ce soit des raisons économiques ou une certaine libération des mœurs aussi, les femmes américaines qui étaient avant essentiellement les femmes au foyer qui gardaient les enfants après l'école, etc., elles vont de plus en plus aller vers un emploi salarié. Et donc, ça veut dire des enfants qui sont un petit peu plus libres, qui sont moins surveillés une fois qu'ils sont sortis de leur salle de classe. Et en plus de ça, on va avoir tout un cocktail un cocktail détonnant qui va se mettre en place. Premièrement, la sortie d'un livre qui s'appelle Michelle Remembers. Donc Michel se souvient, Michel qui raconte ses souvenirs, un livre dans lequel un psy parle d'une patiente qui se serait souvenue à l'issue d'une thérapie qu'elle avait été abusée enfant par une secte, un groupe de satanistes. Et donc ça sort au début des années 80 et à partir de là, le livre visiblement a un certain succès et ça déclenche une ultra-vigilance sur ces sujets, à tel point que même le FBI va être sollicité par les parents. Complètement paniqué, qui voit le diable un peu partout. Et manque de chance, à cette époque-là, on a toute une émergence de la pop culture, disons, qui tourne tout autour des comics, de la fantasy, les jeux vidéo aussi commencent à se faire une place, le heavy metal, bien entendu, n'est pas loin derrière, et donc on a tout un climat de défiance, tout un climat un peu anxiogène autour de cette culture, voilà, cette culture jeune qu'on ne maîtrise pas forcément, cette culture qui est en dehors de la société de consommation basique, en fait. On est beaucoup dans l'évasion, dans des univers un peu parallèles qui ne sont pas maîtrisés. Et puis, bien entendu, on a, bien sûr, les parents ont en tête ce fait divers sordide, qui n'en reste pas moins terrible, évidemment, mais qui peut difficilement faire état de règles pour la société en général. Et donc on a différentes choses qui se créent à cette époque-là. On a une association notamment qui se met en place contre le jeu Donjons et Dragons, ce qui semble voilà hyper risible aujourd'hui, mais il existait une association de parents américains qui était voilà Angry Against D&D, donc qui était en défiance, en opposition à Donjons et Dragons. Et dans la même veine, même si c'est postérieur pour le coup au morceau de Metallica dont on va parler, mais ça peut expliquer d'autres titres, peut-être des années 80, notamment le heavy metal de Judas Priest, c'est cette association qui s'appelle le PMRC, qui est une association de parents qui incrimine un certain nombre de morceaux de heavy metal, une association qui est créée en 1985. Et qui traîne notamment Dee Snider de Twisted Sister ou Rob Halford au tribunal pour répondre de leurs actes, à savoir écrire des titres qui sont soit qui incitent à la violence ou qui incitent à une forme de libération sexuelle. Et donc voilà, on est dans ce climat-là où finalement les groupes sont fliqués, les groupes sont tenus de s'expliquer sur leurs paroles et forcément, ça alimente une certaine défiance, ça alimente une certaine opposition, évidemment, entre les groupes et les parents. Et donc, forcément, ce rejet, ça alimente un certain entre-soi, ça donne envie de cultiver, voilà, de former une carapace et de créer un groupe entre Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Et c'est ce qu'on va retrouver finalement dans pas mal de titres. J'avais un peu le choix pour cette première partie. Il y avait, on va traiter plus particulièrement de Metal Medlesha, de Metallica, qui va traiter un peu de tous ces sujets-là. Mais on aurait pu parler de Metal Health, de Quiet Riot, qui, pareil, affirme aussi assez fièrement les couleurs du métal, encore une fois dans les années 80. On aurait pu parler de Thrashers de Death Angel, qui est un titre excellent, mais qui en termes de propos, voilà, avait peut-être moins de choses, il y a peut-être moins de choses intéressantes à exploiter, mais qui reste un titre et un morceau. L'album, de toute façon, The Ultraviolence de Death Angel, et il est incroyable de violence et de fureur. Et donc ce titre Thrashers qui affirme l'identité des Thrashers justement et de leur côté sans compromission, jusqu'au boutiste, etc. Et sur un ton plus humoristique et peut-être plus connu de nos jours, qui est The Metal de Tenacious D, donc le groupe humoristique un peu parodique de Jack Black avec ce morceau The Metal, c'est une affirmation, encore une fois, du métal, de sa supériorité sur les autres genres, etc. Comme quoi les autres genres, comme le grunge par exemple, ont essayé de tuer le métal, mais le métal renaît toujours de ses cendres. Donc voilà, c'est un clin d'œil un peu marrant à tout ce côté jusqu'au boutiste et premier degré qu'on pouvait retrouver, notamment dans les années 80. On va s'intéresser du coup à Metallica, que je ne vais pas vous faire l'affront de vous le présenter, évidemment. Donc Metal Medlesha, c'est un morceau qu'on retrouve sur leur premier album, Kill 'Em All, un album qui est, en plus de ses paroles, de son titre frondeur, encore une fois, de sa pochette sanglante, un album qui pue la jeunesse débridée, la spontanéité, le punk aussi. Voilà, il y a un côté vraiment très spontané, je trouve, dans cet album qui le rend franchement irrésistible. C'est une fougue qu'on retrouvera peu chez Metallica après, dès le suivant, Ride the Lightning, et encore plus sur Master of Puppets, je trouve. On a ce côté beaucoup plus, peut-être beaucoup plus maîtrisé, plus cadré. Là, on sent que sur cet album, Kill 'Em All, il y a la fougue de la jeunesse, mais évidemment, si vous écoutez cette émission, vous avez certainement posé vos oreilles sur ce disque, donc je vais pas m'étendre plus et on va se focaliser sur Metal Medlesha qui va affirmer ce côté, cette opposition dont on parlait, cette opposition entre, on l'avait dit, supposément les parents ou la société en général, peut-être la société même américaine plus particulièrement, versus les métalleux qui sont obligés de défendre leur précaré. On le voit à différents moments du morceau. Donc pour commencer avec ce vers-là, Join or be conquered, the law of the land, what will befall you. Donc rejoins-nous ou fais-toi envahir, c'est la loi de cette terre, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc avec ce côté, join or be conquered, c'est surtout cette partie-là qui est intéressante, tu es avec ou tu es contre nous finalement, avec ce côté opposition, et juste après ça on va avoir un côté unité justement, parce que si t'es avec nous, si tu fais partie des métalleux, dans ce cas-là, il faut serrer les coudes, c'est ce qu'on voit juste après. We are as one, as we are all the same. Donc, nous sommes un, puisque nous sommes tous les mêmes. On a ce côté, voilà. Et juste après, d'ailleurs, fighting for one cause. Donc, on est ensemble, on est soudés et on se bat pour le même objectif. Donc, on a presque un côté militant, finalement, derrière tout ça. Et avec une unité. On est tous les mêmes, sous-entendu peut-être ce côté, la fraternité du métal, qui est peut-être un thème qui commence à se mettre en place à l'époque. On en parlera encore une fois avec Manowar dans quelques minutes. Et puis d'autres choses aussi qui suggèrent un peu l'idée d'une attaque de l'autre groupe, de notre opposant. Leather and metal are our uniforms, protecting what we are. Donc, le cuir et le métal sont nos uniformes et ils protègent qui nous sommes. Donc, on a une attaque extérieure avec cette idée de protection et en plus, ce côté, définir notre identité, leather and metal, c'est un peu peut-être un. peut-être un écho à Saxon, je sais pas, peut-être avec Denim and Metal. Ah non, pardon, avec Denim and Leather. Donc le jean et le cuir. Là, Metallica, c'est cuir, métal, direct. Bon, chacun ses préférences. Mais voilà, il y a ce côté. Ce sont nos uniformes. Je rappelle qu'on parle d'une milice, donc il y a un côté quand même voilà, guerrier, un côté organisé aussi. On est tous pareils, on a la même cause, on s'habille de la même façon, etc. Donc, d'où le côté, sentiment d'appartenance aussi. Hein. On rappelle que l'adolescence, c'est le moment où t'as envie de s'intégrer au groupe, de faire partie d'une meute, d'une bande. Donc, c'est d'autant plus intéressant de voir ça ici. Et dernier vers qui peut être intéressant là, à ce niveau-là, joining together to take on the world with our heavy metal. On se regroupe pour prendre d'assaut le monde, pour dominer le monde avec notre heavy metal. Donc ça, c'est une intention tout à fait noble, évidemment, dominer le monde par le heavy metal, quoi de mieux? Donc ça suggère, bien entendu, un combat avec cette entité, avec cet adversaire finalement que l'on défie et que l'on va combattre à coup de riff et d'ampli monté à fond. Donc tout ça c'est voilà c'est un peu l'esprit de Metal Militia, donc un esprit guerrier, un esprit revendicatif aussi et un esprit unitaire qu'on retrouve dans ce morceau. Alors, le lié à la carrière de Metallica, je ne vais pas m'y risquer. Ça me permet de faire un petit aparté, évidemment, puisque je parle de Metallica, sur un podcast qui est évidemment très recommandable, qui est hyper intéressant à ce sujet. C'est évidemment le podcast Metallica Re-Revisited, qui est co-animé par Guillaume Fleury de Rockhard et Nicolas Sénac. Et donc, qui un podcast qui revient sur la biographie de Metallica, mais de manière très très détaillée, qui est très intéressant, bien entendu, et il me semble qu'ils vont bientôt aborder Kill 'Em All, donc ce sera intéressant d'avoir leur point de vue sur Metal Militia, et peut-être voir si à la lumière de la vie du groupe, est-ce qu'il y a des choses supplémentaires à en tirer, peut-être de ce texte-là. Voilà, en attendant. On va s'écouter bien évidemment Metal Militia, puisque vous et moi on fait partie de la même milice, on se bat pour la même cause, le heavy metal, qui va conquérir le monde. Nous voilà de retour après cet intermède musical de James Hetfield et sa bande. On va passer à une deuxième caractéristique, une deuxième raison pour laquelle le métal parle de lui-même. Et cette raison, c'est l'autodéfinition musicale. Alors j'ai conscience que c'est un petit peu bancal comme titre, mais je vais m'expliquer. En fait, j'aurais pu appeler cette partie « Insérer adjectif avant métal ». Vous allez très vite comprendre, si je vous dis death metal, si je vous dis power metal, si je vous dis black metal, vous avez peut-être en tête des genres musicaux, mais vous avez peut-être en tête des morceaux. Et c'est ce qu'on va retrouver avec Venom notamment, qui est célèbre pour son morceau et son album black metal. Et on va s'intéresser à ça, pourquoi est-ce qu'on mettrait un adjectif, pourquoi est-ce qu'on choisirait de donner une couleur au metal, qui à la base simplement est du heavy metal, tout simplement. Donc on a plusieurs exemples, évidemment. Au-delà de black metal de Venom, on va retrouver death metal de Possessed. Pourquoi est-ce que Possessed nous parle de death metal? Parce qu'on parle d'une musique qui, selon ses auteurs, peut percer les oreilles, rien que ça, et prendre le contrôle sur des villes. Donc on est pas loin du projet de Metallica avec Metal Militia. Et donc on a ce côté radical, ce côté voilà, node metal, celui qu'on joue, le death metal, il est plus violent que les autres, quoi. En tout cas, prenez garde parce qu'il est inquiétant, il est terrifiant, il va vous percer les tympans, voilà, y a rien à faire, il est incontrôlable finalement. Et c'est un peu ce thème-là, cette idée-là qu'on va retrouver derrière cette partie du métal qui va s'auto-définir, qui va expliciter ses propres caractéristiques et qui va surtout montrer qu'il est plus intense, qu'il est plus radical que, sous-entendu, peut-être que ce qui se faisait dans le passé. Autre exemple, on va avoir Power Metal de Pantera, qui en l'occurrence met en avant la puissance, étonnant, la puissance de la musique, la furie, etc. Donc en général, c'est des textes qui volent pas très haut. Encore une fois, je rappelle, on est dans une époque où les groupes sont jeunes, il y a assez peu de recul sur ce qu'ils font, il y a un côté assez naïf aussi qui peut être complètement assumé et intéressant et qu'on peut complètement apprécier, hein. C'est bien de débrancher le cerveau aussi parfois et de hurler black metal, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, on n'est pas sur des textes qui crèvent le plafond. Le but, c'est montrer qu'on est les plus forts, qu'on est les meilleurs, qu'on joue plus fort, plus vite que tout le monde. Et ça, les groupes l'ont bien compris. Parce que faites le test, moi c'est ce que j'ai fait tout simplement sur Metal Archive. Vous allez vous taper, vous cherchez un titre qui s'appelle Metal, vous allez avoir évidemment des centaines d'occurrences qui sont trouvables. Et parmi celles-ci, parce que je me suis dit, bah, si on peut mettre à peu près n'importe quoi devant Metal, on va avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Donc sans non plus aller jusqu'à théoriser que ça existe. On a des groupes qui proposent différentes choses, par exemple un groupe qui s'appelle Amit, je suppose que ça se prononce comme ça, donc un groupe qui est plutôt typé un peu black, première vague, un peu war metal, etc. Donc, disons un dérivé entre le thrash et le black assez primaire, qui propose le grotesque metal, pourquoi pas. Un autre groupe qui s'appelle Barbarian, qui lui est plutôt dans tout ce qui est speed black thrash, donc on n'est finalement pas très loin de cet univers-là, qui lui joue du regressive metal, metal régressif, c'est pas si mal finalement, comme quand on s'appelle Barbarian, on peut pas s'attendre à mieux. Et sinon, un groupe de heavy metal, on va dire, mais qui a un gros côté parodique, un gros côté voilà, second degré, déjà avec le nom du groupe. On peut un peu s'y attendre. Le groupe s'appelle Footprints in the Custard, donc des traces de pas, des empreintes dans la crème anglaise. Donc on imagine déjà le genre de groupe qui peut se cacher derrière ça, qui lui revendique totalement de jouer du party metal, donc du metal pour faire la fête. C'est évidemment ce qu'on peut attendre d'un groupe qui s'appelle Footprints in the Custard. Voilà, donc on a plein de groupes qui se livrent à cet exercice-là, et plus particulièrement pour ce qui est des titres qui ont donné lieu à des genres derrière, on peut s'y intéresser 2 minutes. Particulièrement death metal et black metal, on va avoir peut-être une confusion là-dessus, puisque Possessed, quand il joue death metal, c'est un petit peu considéré comme l'origine, mais malgré tout, on ne peut pas ignorer que Possessed reste un groupe qui est quand même assez trash, finalement, à l'époque où il sort ce morceau. Voilà, même chose pour Venom, hein, finalement, va lancer le black metal, supposément. Mais musicalement, voilà, on est plus sur du heavy à la Motörhead, très cracra. En fait, c'est peut-être ce côté cracra qu'on va retrouver ensuite derrière dans Celtic Frost, dans Bathory, et ainsi de suite. Et de manière plus large, les termes death metal et black metal, ils sont utilisés parfois sans lien avec la musique ou un peu à tort, particulièrement dans les fanzines, parce qu'à l'époque, voilà, on est dans les années 80 notamment, dans un flou sur la description des genres. Aujourd'hui, c'est très compartimenté, on voit qui est quoi, on peut coller une étiquette sur à peu près n'importe quel groupe. Avant, ça reste encore très flou, c'est très peu formalisé, et du coup, on peut lire des choses qui aujourd'hui paraissent pas crédibles. On peut voir Mayhem notamment en 1987 pour sa démo Pure Fucking Armageddon, qui est qualifiée de death metal par Slayer Mag. Donc ça paraît... Évidemment, on peut tout à fait comprendre que cet adjectif-là soit utilisé, parce que, voilà, death metal, ça renvoie un imaginaire, un côté un peu sale, un peu inquiétant, qui colle tout à fait à Mayhem. Un groupe de trash comme Dark Angel est considéré comme étant du power metal en 84 par le fanzine Brain Damage. Pareil, c'est pas strictement musicalement parlant, c'est pas rigoureux, ça marche pas. Mais on comprend que derrière ça, il y a une volonté de montrer la puissance du groupe, le côté brutal et tout ce qui s'ensuit. Et même chose pour Celtic Frost en 1986. Ils sont qualifiés par le fanzine Blowing Thrash de nouveau style. Ils joueraient un nouveau style de death metal. Bon, en réalité, ils sont assez loin du death. Ils sont plutôt sur un mélange de thrash, de doom, de black première vague. Voilà, c'est un mélange assez hétéroclite Celtic Frost et donc forcément les labels ou plutôt les appellations sont pas toujours les plus rigoureuses ou les plus pertinentes avec notre regard d'aujourd'hui mais très certainement que les titres comme Death Metal de Possessed ou Black Metal de Venom ont contribué à cette radicalisation. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement à Venom avec son morceau Black Metal la première, disons que la raison première de ce morceau, ça reste la surenchère comme on l'a dit pour Possessed, comme on l'a dit pour Pantera aussi. Le but c'est de se montrer plus fort, plus bourrin que les autres et on le voit en fait finalement dans un différent morceau, différents passages du morceau. Notamment ce passage-là, Power Amps Set to Explode, donc les amplis sont prêts à exploser carrément, Faster Than Over the Top, donc plus rapide que tout, voilà, donc on est dans cette surenchère, ce côté un peu hyperbolique qui est revendiqué par Venom, et au-delà de ça, deuxième intérêt peut-être de Venom avec ce titre Black Metal, et peut-être pour ça qu'il fera date aussi, c'est de jouer la carte du satanisme. Alors, ça tombe bien, on a parlé de la Satanic Panic plus tôt. Ça sort en 82, Black Metal, donc c'est aussi, même si on n'est pas dans un contexte américain, on reste. Je rappelle qu'ils sont. Venom, ils sont de Grande-Bretagne, donc on n'est pas concerné par ce même genre de problème, mais malgré tout, ça apparaît dans ce contexte-là, ça arrive aux États-Unis avec cette méfiance envers le démon, le satanisme, etc. Et au-delà de ça, ils sortent ce morceau simplement en 1982. Et en 82, on n'a pas non plus des tonnes de groupes qui assument clairement de jouer sur le satanisme. Donc c'est ce qui fait peut-être que ça les démarque aussi par rapport à d'autres. Bien évidemment, des groupes comme Black Sabbath ont évoqué ces questions-là. Mais Venom le fait peut-être d'une manière un peu plus frontale et va l'afficher très clairement sur ses pochettes. On regarde la pochette de Black Metal et de Welcome to Hell. On a des références criantes, évidentes au satanisme avec des pentacles inversés, des boucs, tout le décorum qui va avec, évidemment. Et donc on retrouve ce côté satanisme assumé dans le morceau avec Black is the Night, donc la nuit est noire, Satan records the first note, donc Satan enregistre la première note, donc c'est lui quand même qui est aux commandes, c'est pas rien, et Open the door, enter hell's core, ouvre la porte, entre au cœur de l'enfer, donc Venom revendique très clairement le satanisme, ça se voit, et franchit des lignes rouges pour l'époque, ça c'est certain. On peut s'écouter donc un extrait de Venom qui ne joue pas encore tout à fait du black metal, on va pas se mentir, mais son morceau engendrera quelques petits groupes derrière lui, à ce qui paraît. Avant de passer à la suite, à savoir un groupe de black metal, donc vous doutez que les transitions sont travaillées, là on est sur un niveau acrobatique de transition, je pense. Avant de parler de Darkthrone, Un peu plus en détail, on va évidemment, c'était obligé, faire un aparté sur Manowar parce que ils auraient pu quasiment se retrouver dans toutes les catégories qu'on a citées précédemment. La dernière catégorie histoire que je le précise, ce sont les morceaux qui vont parler de métal pour parler du true metal. Voilà, sous-entendu, il y a un métal qui n'est qui est false, qui est fake, qui n'est pas digne de ce nom, qui n'est pas digne de s'appeler du métal. Et évidemment, il fallait parler de Manowar dans cette catégorie, mais comme je disais, on pouvait très bien les retrouver ailleurs. Pourquoi? Parce que Manowar, c'est quand même le groupe champion pour parler du métal, pour s'auto-référencer, pour parler de leur place même au sein du genre. Et donc, évidemment, on est obligé d'en discuter. Voilà, donc pour dire deux trois mots, Manowar, c'est un groupe de heavy metal américain qui se forme dans les années qui se forme début 80. Un groupe qui est reconnaissable pour son logo, ses pochettes où ils vont avoir tendance à se mettre eux-mêmes en scène, ce qui est pas si courant que ça quand même de mettre les membres du groupe sur une pochette. Ça peut participer à ce côté, voilà, on joue du métal et on l'assume, on est nous-mêmes des personnages de notre propre univers. Et bien entendu, ils sont connus pour leurs références multiples au métal. Par exemple, ils ont versé dans la célébration du métal, comme on a pu le voir plus tôt avec Chuck Berry qui chante Rock'n'Roll Music, ben, eux ils chantent Metal Days. Qui est une célébration de cette musique. C'est sur leur premier album, c'est un morceau qui est excellent. De toute façon, leur premier album est très très bien, ça fait partie des meilleurs selon moi. Au-delà de ça, ils ont ce côté solidaire, on se serre les coudes qu'on a pu voir avec Metallica, ce côté Brotherhood of Metal face à l'adversité. On peut citer par exemple le morceau Holy War, qui est sur l'album Fighting the World, qui est pareil, très bon album. Holy Wars, je dirais que c'est pas un des meilleurs titres. Mais malgré tout, on a ce côté, voilà, on est en guerre sainte et on se bat contre l'ennemi. Et au-delà de ça, ils sont connus pour leur slogan Death to False Metal. Alors j'ai essayé de retrouver l'origine de ce slogan qui leur est attribué. J'ai pas trouvé ça dans les paroles. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Mais voilà, c'est Manowar qui a théorisé, en tout cas, théoriser, c'est peut-être un grand mot pour Manowar, mais qui a asséné ce slogan qui, on doit le dire, fonctionne quand même très bien et qui met en lumière, bien évidemment, le true metal tel qu'ils le conçoivent. En plus de ça, de ce côté célébration, célébration du métal, adversité, solidarité, une autre caractéristique de Manowar, c'est particulièrement sur le morceau Kings of Metal. Le côté ego trip qu'on peut retrouver dans le rap, le côté je suis plus fort que tout le monde, et le côté je me compare aux autres, parce que dans Black Metal ou dans Death Metal de Possessed et de Venom, on a ce côté on joue une musique forte, on joue une musique puissante, etc. Mais on n'a pas forcément. Ils vont pas jusqu'à la comparaison de dire les autres sont ridicules. C'est ce qu'on a, clairement, dans Kings of Metal de Manowar, avec évidemment une formule qui marche super bien: Other bands play, Manowar kills. Donc les autres groupes jouent, nous on tue. Donc évidemment une formule qui se place dans la comparaison et qui montre que Manowar est au sommet. Ce sont les guerriers, les rois du métal. Et donc c'est une autre facette de leur titre dédié au métal. Et plus particulièrement le titre qu'on aurait pu inclure dans cette partie qui parle de true et de false metal, c'est le titre Metal Warriors qui nous délivre ce message sacré: Wimps and Posers leave the hall, heavy metal or no metal at all. Donc les mauviettes et les poseurs, vous pouvez dégager, on joue du heavy metal ou on joue pas de metal du tout. Voilà, c'est le message que Manowar a à faire passer au reste du monde, mais ça définit quand même ce côté. Voilà, le vrai métal, c'est celui qui est heavy, celui qui est puissant. Les autres peuvent disparaître. De toute façon, ils ne jouent pas du métal, ils ne font pas partie du cercle très fermé, tenu par Manowar. Voilà, donc on a tout ce côté-là qu'on était obligé de développer un petit peu sur Manowar, et on va passer sur Dark Throne, qui a un petit peu a dû prendre un peu de ce côté Manowar et de ce côté défiance vis-à-vis des autres. Sans se revendiquer, on est meilleur que les autres, on est plus puissant que les autres, etc. Ils vont avoir quand même ce côté acide, ce côté punk un peu bas du front et un peu bagarreur finalement, avec quelques titres qui sont qui clairement posent la limite entre ce qui est du true metal pour Dark Throne et ce qui n'en est pas. On parlait tout à l'heure de Tupac avec son titre Old School, qui fait référence à des rappeurs de manière, nommément et explicitement. Et en fait, il se trouve que Dark Throne, donc c'est le groupe auquel je faisais référence un peu plus tôt, est un groupe qui n'hésite pas à le faire aussi, avec un discours méta quasiment sur le métal, parce que on peut s'arrêter là-dessus deux minutes, le métal vit dans son monde de dragons et de démons et tout ce que vous voulez. Le métal, en principe, il a assez peu de connexion avec le monde réel. S'il en a, c'est en général en lien avec le trash, par exemple, pour son côté punk, ancré dans la réalité, mais dans le sens, on est contre le nucléaire, la guerre, ou ce genre de choses, mais le métal est très rarement à parler de lui-même et sur des choses aussi triviales que... J'écoute tel groupe. C'est ce que fait Dark Throne dans un morceau plus spécifiquement. Le morceau c'est Raised on Rock, et il parle de Venom, et il parle de Mania Road. Et c'est quelque chose qui est surprenant. Donc bien sûr, on va le voir, hein, Venom et Mania Road sont cités en bien. C'est, au contraire, ça fait partie des groupes qui sont validés par Fenriz, le batteur de Dark Throne. Et à l'inverse, on ne peut pas imaginer Metallica qui cite Megadeth dans un morceau. Ça n'existe pas. Metallica ne fait pas un morceau en disant « I love Megadeth » et l'inverse est vrai. Megadeth ne fait pas un morceau en disant « I love Metallica ». Yeah, ça n'existe pas, bien entendu. Et donc Dark Throne va avoir tendance à avoir ce côté à la fois méta, on l'a dit, donc le métal qui parle de lui-même et qui va jusqu'à citer des groupes dans ses propres paroles. Et donc Dark Throne va développer ce côté un peu hostile, justement, à ce qui ne lui plaît pas. Donc on peut prendre un premier exemple avec le morceau Too Old, Too Cold de Dark Throne, qui attaque très clairement tout ce qui est... Qui met en lumière le black metal qui est untrue, qui ne correspond pas à leur vision du black metal. Alors je rappelle qu'évidemment Dark Throne sont des fondateurs du black metal norvégien de la seconde vague. Entre guillemets, ils ont la légitimité d'en parler évidemment et de dire ce qu'est le black metal ou ce qui ne l'est pas. Mais bon, ça reste discutable évidemment quand on sait que le black metal n'est pas resté dans ces carcans norvégiens, loin de là. Mais peu importe, tout ce qu'ils nous disent, c'est ça. You call your metal black, it's just plastic, lame and weak. Donc tu dis que ton métal est noir, mais il est simplement plastique, nul et faible. Donc on est encore une fois sur un côté clash, hein, comme dans le hip-hop, tout simplement. On ne sait pas exactement à qui s'adresse cette vindicte qui est sûrement signée de Fenriz, donc le batteur. Mais ça clash, tout comme dans le rap, tout simplement. Et voilà, le métal versus ton truc, ta musique en plastique un peu naze. Un autre titre qui est un peu dans cette veine-là, qui n'a pas d'autre revendication que d'avoir un titre et un refrain qui disent « Church of Real Metal », donc l'église du vrai métal, voilà, tout simplement. Et plus particulièrement « Raised on Rock », donc dont on parlait plus tôt. Peut-être un jeu de mots sur « Raised on Rock », donc j'ai été élevé peut-être à la dure, dans les montagnes, je sais pas, peut-être que je surinterprète les paroles. Mais sinon, « Raised on Rock », bien sûr, j'ai été biberonné au rock, j'écoute ça depuis que je suis jeune. Et donc on le voit avec les paroles ici qui sont peut-être les plus explicites à ce sujet-là. You think old school is 1993? Ha, I've been a thrasher since 84 And almost nothing sounds true anymore. Donc ici, on me dit clairement, tu penses que l'old school c'est 93, moi je suis un trasher depuis 84, et plus rien ne sonne true aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, très clairement, là on est plutôt sur conflit de... quasiment conflit de génération, où Fenriz, puisque je soupçonne que ce soit lui qui soit derrière ces paroles, Fenriz ou Dark Throne en tout cas revendique complètement le fait de... On est les vieux de la vieille, on a vu les choses venir avant vous, on est des trashers depuis 84, donc un côté voilà, un peu défiant sur les nouvelles générations et sur ce qu'ils considèrent comme étant voilà, des gens qui ont peut-être des choses encore à apprendre avant de l'ouvrir. Alors je dis ça tout en maintenant le fait que Fenriz notamment, au-delà de ce côté un petit peu sale con qu'il peut avoir dans les paroles, il a quand même aidé à promouvoir plein de groupes dans un podcast, dans différentes interventions qu'il fait, où il met en lumière plein de groupes qui sont jeunes, qui sont récents, qui correspondent à sa vision de la musique, mais il le fait avec passion, voilà, il faut peut-être aussi prendre un peu de distance avec ces paroles-là. Autre chose qui est toujours dans ce morceau Raised on Rock, sold my soul to Manila Road, modern metal, I don't give a fuck, oh, I was raised on rock. Donc ici, j'ai vendu mon âme à Manila Road, le modern metal, le metal moderne, j'en ai rien à foutre, j'étais élevé sur le rock, j'ai été élevé avec le rock, etc. Donc ici, encore une fois, assez étonnant de voir une référence explicite à Manila Road. On le voyait, il existe plus tard dans le morceau une référence à Acid Queen de Venom, et de manière plus générale un autre morceau de Dark Throne s'appelle Canadian Metal, et c'est un morceau où il n'y a que des références. Alors il faut s'y connaître un peu, j'avoue que j'ai besoin d'une explication de texte pour repérer ces références là, mais des paroles qui font référence exclusivement à des groupes canadiens comme Pal Driver par exemple. Donc voilà, c'est pas la première fois que Dark Throne fait ce livre à ce genre d'exercice. Donc ici, voilà, on cite explicitement ce qui fait partie du vrai métal, Manila Road, et donc le modern metal, au contraire, le metal moderne. On s'en fout, et on est plutôt en croisade contre ce métal moderne, ce qu'on retrouve dans un autre morceau qui s'appelle I am the grave of the 80s, et qui dit Destroy their modern metal and bang your fucking heads. Donc encore une fois, détruisons leur métal moderne et secouons la tête ensemble, quoi. Donc sous-entendu, voilà, on peut être bangé après avoir détruit le métal moderne. Donc on le voit avec Dark Throne, c'est un thème qui développe sur plusieurs titres, c'est un petit motif qui les caractérise plutôt dans leur deuxième partie de carrière, et c'est assez étonnant, c'est assez marrant, parce que ces revendications de true metal, elles apparaissent sur les albums les plus punk de Dark Throne, donc c'est peut-être ce côté un peu défiant, un peu narquois, qui... musicalement en tout cas, qui fait qu'ils ont envie de mettre des tirs aux autres. Mais voilà, il faut savoir que Dark Throne, ils n'ont jamais été autre chose que du metal et du punk, on va pas se mentir, sur ces albums-là. Mais malgré tout, il faut garder en tête que c'est un groupe qui a beaucoup évolué, qui a commencé death metal, qui a fait du true black ensuite, qui est passé par le punk, qui ces jours-ci aime beaucoup lorgner vers le doom. Donc ils ont, et bien sûr pour ce qui est du punk, ils ont au moins 3 albums qui sont clairement revendiqués, qui sont clairement affiliés punk black, on peut le dire. Peut-être un des meilleurs de ces albums là, enfin ouais, ils sont quand même tous les 3 vraiment pas mal, mais un des meilleurs les meilleurs de ces albums là, je pense c'est Circle of the Wagons et FOAD, donc Fuck Off and Die. Qui ont des morceaux qui sont très directs, très, très punk, et qui fonctionnent bien dans ce registre-là. Malgré tout, on peut peut-être prendre un petit peu de recul pour terminer là-dessus, avant de s'écouter Raised on Rock. On reste quand même dans quelque chose d'assez immature. Je dis ça avec tout le plaisir et tout le respect que j'ai pour Dark Throne. Mais quand même, Manowar et Dark Throne, on peut dire que ça va pas bien au-delà d'un discours du type ta musique elle est nulle, la mienne elle est mieux. Et bon, c'est vrai que quand on lit ces paroles, c'est un peu comme d'autres morceaux dont on a pu parler un peu plus tôt. Ça, c'est très adolescent et ça vole pas très haut, quoi. Faut pas trop être regardant sur ces paroles-là. Et puis garder en tête que malgré tout, on écoute une musique qui est régressive. Et c'est un peu comme ça qu'on l'aime aussi. Et donc je vous propose de régresser tous ensemble en écoutant Raised on Rock de Dark Throne. I made my own code, so my soul to Manila Road. Modern metal, I don't give a fuck. I was raised on rock. It went plastic since 94. Oh my god, you're such a bore. Voilà, donc vous avez entendu ce morceau de Dark Throne qui exalte l'adolescente qui sommeille en nous et qui a été élevée, biberonnée au rock. Si vous êtes là, c'est probablement le cas. Voilà, on conclut là-dessus l'épisode 6 de L'œuvre noire. Merci à vous pour cette écoute. Je rappelle que vous pouvez bien entendu partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Si vous le souhaitez, il est également disponible sous forme de podcast sur Spotify, sur Deezer. Voilà, il est également publié sur Métallurgie. J'en profite pour faire un petit aparté, peut-être rapide, sur Métallurgie en général. En ce moment, vous avez peut-être vu que la plateforme Utip avait fermé ses portes un peu du jour au lendemain. Il se trouve que Métallurgie, voilà, avait une page Utip pour les dons des lecteurs et éventuellement des auditeurs. Si jamais vous souhaitez nous soutenir dans notre travail, faire en sorte qu'on reste un site indépendant, vous pouviez jusqu'à il n'y a pas longtemps nous retrouver sur Utip. Et donc les choses ont changé forcément depuis la fermeture de ce site Utip. Donc voilà, si vous souhaitez faire un don à Métallurgie, que ce soit un don ponctuel ou un don plus régulier, vous avez la possibilité de le faire via PayPal. Je mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Ça file toujours un petit coup de pouce au site et c'est sympathique de votre part. Quoi qu'il arrive, votre partage, vos likes, vos commentaires sont également toujours les bienvenus. N'hésitez pas à parler de l'épisode autour de vous. Et là-dessus, on se dit à la prochaine pour l'épisode 7. Salut!